Voici une question dont la réponse nous donnera un puissant avertissement. Pourquoi voyons-nous autant de nations en ruine au cours de l'histoire? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Ça m'émerveille toujours de voir à quel point la parole de Dieu, qui a été écrite il y a des milliers d'années, nous instruit et enrichit nos vies aujourd'hui au 21e siècle. Voici les questions qu'on va poser au Seigneur. De nos jours, y a-t-il des dirigeants qui consultent les astrologues et qui s'adonnent au satanisme? Est-ce que Dieu juge ceux qui se détournent de lui? Pourquoi le parcours de l'histoire est-il parsemé de nations en ruine? Qu'est-ce qui arrive quand un homme ou un pays se détourne de Dieu? Où et comment un réveil commence-t-il? Une église peut-elle égarer la parole de Dieu? Demeurez à l'écoute. Les Saintes Écritures ont les réponses à toutes nos questions et nous les entendrons dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir cet enseignement et à le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Prions. Oh oui, Seigneur, on te demande de disposer nos cœurs, de répandre ta paix dans nos cœurs, qu'on puisse entendre ce que tu vas nous dire aujourd'hui et qu'on puisse aussi mettre en pratique tout ce que tu vas nous enseigner. On compte sur toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu la maladie d'Ézéchias. Cette maladie était mortelle. Et Ézéchias supplia Dieu de lui prolonger ses jours. Dieu le lui accorda, mais malheureusement, Ézéchias ne répondit pas à la bonté de Dieu pendant ces 15 années supplémentaires, mais plutôt se laissa aller à l'orgueil. Cet épisode nous a rappelé que nous devons tous comparaître devant Dieu un jour, et qu'il nous faut être sensibles et non fanatiques devant la maladie. De plus, il faut que nous acceptions la volonté de Dieu en matière de santé. Parfois, il accorde des guérisons, parfois, il rappelle ses serviteurs à lui. Le chapitre d'aujourd'hui, soit le chapitre 21 de Deux Rois, sera décevant après l'histoire du règne d'Ézéchias. Il fut le meilleur roi depuis David, et personne ne peut se comparer à lui. Il partageait un autre point commun avec David. Comme David, il ne fut pas un bon père. Ézéchias donna naissance à un fils qui fut le pire roi qui n'ait jamais régné sur le royaume de Juda. Le récit du règne de Manassé, le fils d'Ézéchias, nous attriste. Certains auteurs pensent que la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire sa présence visible, a quitté le temple pour remonter au ciel sous le règne de Manassé. La gloire de Dieu devait être au temple pendant le règne d'Ézéchias, et je ne peux pas voir quel événement aurait provoqué son départ après le règne de Manassé. Lorsque la présence de Dieu quitta le temple, il devint un endroit désolé, abandonné de Dieu. En examinant le règne et la vie de Manassé, nous verrons qu'il haïssait le temple et tout ce qui concernait Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Deux Rois, chapitre 21, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eftiba. Manassé monta sur le trône à 12 ans. Il régna 55 ans, et Dieu lui donna plusieurs occasions de se repentir, mais il devint pire. Dans Deux Chroniques, nous apprenons qu'il s'est finalement repenti. Dieu est patient, ne voulant pas que nous périssions. La mère de Manassé était Eftiba. Elle devra accepter sa part de responsabilité au sujet de son fils. Nous ne savons pas comment elle a élevé son fils, mais il fut méchant, et les dommages qu'il fit au pays furent irréparables. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Manassé fit les mêmes abominations que les nations que Dieu avait chassées devant les enfants d'Israël. Verset 3. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Ézéchias a détruit les hauts lieux païens, et il y eut un réveil partiel sous son règne. Tout ce travail fut annulé par Manassé, qui restaura le culte à Baal et à Astarté, et qui servit l'armée des cieux. Chers amis, c'est un retour en arrière, comme nous voyons dans 2 Timothée chapitre 4, versets 10 à 18. L'apôtre Paul dit, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul est en train de terminer son ministère, et il parle de ceux qui l'accompagnaient, de ses compagnons de service. Il demande à Timothée de se rendre vers lui, afin d'être présent et de pouvoir l'encourager. Se retrouver seul, de voir les nôtres nous quitter et de retourner en arrière. Heureusement que cet homme avait confiance en Dieu, dans le Seigneur Jésus, qui a pu l'assister, le fortifier, pour que la prédication puisse se poursuivre. Poursuivons notre lecture. Êtes-vous coupable du péché de Manassé? Peut-être pensez-vous que nous avons progressé depuis l'époque, mais ce n'est pas le cas. De nombreuses personnes font un retour en arrière. Ils consultent les astrologues. Le satanisme renaît et on prie Satan. Certains ramènent même les anciens rituels druides. Il y a des écoles de druides dans certains pays d'Europe. Revenons au texte, 2 Rois, chapitre 21, versets 4 et 5. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Manassé défia Dieu en introduisant des cultes idolâtres dans le temple de Dieu. Il y aménagea des idoles et des autels. Verset 6. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Imaginez, cet homme sacrifia son propre fils. Faire passer son fils par le feu consistait à le mettre dans une idole chauffée à blanc. C'était une forme de sacrifice atroce et sadique. Versets 7 et 8. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Le peuple ne s'en rendait pas compte, mais il était en train de se préparer pour un voyage à Babylone. Avant longtemps, c'est là qu'il irait en captivité, car la terre promise lui appartenait en autant qu'il était obéissant. Verset 9. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent, et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Manassé et le peuple devinrent pires que les nations environnantes. Ce sera à leur tour d'être expulsés du territoire. Versets 10 à 13. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. Dieu juge ceux qui se détournent de lui. Dieu va maintenant juger Juda comme il a jugé Samarie et tout Israël. Dieu dit, « Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. Dieu va laver la vaisselle, et le plat qu'il lavera, c'est Jérusalem. Le peuple a souillé le plat, et Dieu va le nettoyer. » Nous pouvons être intelligents et instruits, chers amis, et penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Cependant, nous marchons sur la planète, respirons son air, profitons de son soleil et buvons son eau. Il nous a même donné le corps que nous possédons. Mais de temps à autre, Dieu lave la vaisselle, sa vaisselle. Le parcours de l'histoire est parsemé de nations en ruine. Pourquoi? Parce que ces nations ont fait ce que la nôtre fait aujourd'hui, se passer de Dieu. Dieu a nettoyé Jérusalem comme on lave un plat. Verset 14. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Dieu dit qu'il va ouvrir la digue et laisser l'ennemi déferler sur le pays. Verset 16. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Se détourner de Dieu entraîne beaucoup de péchés. Lorsqu'un homme ou un pays se détourne de Dieu, il ne fait pas qu'un seul type de péché. En fait, il se livre à de nombreux péchés. Non seulement avons-nous rejeté Dieu, nous sommes devenus une nation immorale. Le non-respect de la loi et les meurtres sont choses courantes. Certaines compagnies quittent les grandes villes pour des petites villes où il y a moins de crimes. Cependant, cela ne sert à rien, car c'est à Dieu qu'il faut revenir. C'est là le premier pas à faire. Versets 17 et 18. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna à sa place. Voilà l'histoire de Manassé. Quelle triste histoire! Il n'y a rien à dire, sauf qu'il fut un roi méchant et corrompu, et qu'il mourut. Versets 19 à 22. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemeth, fille de Harutz, de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Amon ne fut pas mieux que son père. Il suivit les traces de celui-ci. Il abandonna l'Éternel, donc Dieu l'abandonna. Verset 23. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. La méchanceté d'Amon provoqua une révolution. Aujourd'hui, nous n'avons que des politiciens qui pensent à se faire élire. Qu'importe le coût, ils sont prêts à vendre le pays et à voter des lois à l'encontre de la loi divine. Il ne faudra pas s'étonner lorsque nous voyons la chose aller de mal en pire. Versets 24 à 26. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Maintenant, nous passons au dernier des grands rois. Non seulement Josias fut-il un grand roi, mais il y eut le plus grand réveil de tous sous son règne. Ilkija, le souverain sacrificateur, fut son conseiller et son adjoint. Deux rois, chapitre 22, verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskat. Notez combien jeunes sont les rois au début de leur règne. Il en est ainsi, chers amis, parce que leurs pères furent assassinés. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Il semble que le soleil brille à nouveau sur le pays. Josias est monté sur le trône. Il a amorcé un mouvement qui est devenu le plus grand réveil religieux qu'a connu le peuple depuis David et Salomon. Versets 3 et 4. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Scaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Mishulam. Il lui dit, « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. » Josias récupéra l'argent qui avait été collecté dans le temple, et il s'en servit pour le rénover. Il faut faire attention à qui l'on donne notre argent. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des dons à des organisations qui ne font rien pour Dieu. Investissez votre argent dans l'éternité. Donnez à Dieu. Le temple n'était plus utilisé lorsque Josias monta sur le trône. Il était devenu un entrepôt où on y avait rangé des objets hétéroclites. Versets 5 et 6. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. L'argent fut remis à des personnes qui s'en servaient à bon escient et au service de Dieu. La première chose que fit Josias fut de réparer la maison de l'Éternel. Et voilà comment commence un réveil, chers amis. Un réveil commence toujours parmi le peuple de Dieu, jamais parmi une masse d'incroyants. Il faut premièrement se libérer de nos idoles et revenir à la parole de Dieu. Verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Scaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Scaphan, et Scaphan le lut. « Votre Église a-t-elle égaré la parole de Dieu? L'Église que vous fréquentez a-t-elle perdu la parole de Dieu? Le livre de la loi était égaré parmi un tas d'objets hétéroclites. Nous faisons la même chose aujourd'hui. Dans bien des églises, la parole de Dieu est remplacée par la psychologie ou par des méthodes et des façons de faire. Les gens reçoivent de l'enseignement qui provient de toutes sortes de livres, tout sauf la Bible. La parole de Dieu est égarée dans bien des lieux qu'on appelle église. Marie et Joseph avaient perdu le Seigneur Jésus dans le temple alors qu'il avait 12 ans. Bien des églises ne savent plus où est leur Seigneur. Il faut le retrouver, chers amis. Et le bon départ, c'est par la parole de Dieu. Versets 9 et 10. Puis Scaphane, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Scaphane, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur, Ilkija, m'a donné un livre, et Scaphane le lut devant le roi. » Josias entend la parole de Dieu pour la première fois. Imaginez, avez-vous entendu la parole de Dieu, celle qui se trouve dans la Bible? Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Notez comment débuta le réveil. Le roi a entendu la parole et il a déchiré ses vêtements. Un homme s'est repenti en entendant la parole de Dieu. Un réveil commence par un ou quelques chrétiens repentants, chers amis. Le réveil ne commença pas par une réunion à laquelle on avait invité beaucoup de monde et au cours de laquelle on avait servi un délicieux repas. Les meilleurs prédicateurs du pays ne furent pas invités à cette réunion pour y prêcher quelques minutes chacun à leur tour. Le grand réveil qui eut lieu sous Josias, le plus grand réveil de la période des rois, débuta lorsqu'une personne, le roi lui-même, touché par la parole de Dieu, déchira ses vêtements, démontrant ainsi sa repentance. Nous pensons obtenir ou provoquer des réveils en organisant des réunions, en réclamant des rues et des quartiers, en allant y prier, en encourageant différents groupes ethniques et à se demander pardon mutuellement. Mais ce n'est pas ainsi qu'un réveil fonctionne. Dieu utilise des chrétiens repentants qui s'appuient sur sa parole pour attiser une flamme qui provoquera un réveil. Ce que nous avons besoin, c'est de conviction de péché, de repentance et de pardon. C'est la joie qui découle de notre relation avec le Seigneur qui touche les cœurs. Ce ne sont pas les réunions ou les méthodes. Nous pouvons faire ces choses par orgueil, sans véritable repentance. Le véritable réveil, c'est lorsque le croyant confesse à nouveau son péché et se détourne de ce mal, et par le fait même, se tourne à nouveau vers Christ pour être restauré spirituellement dans son âme. Voilà le réveil spirituel. Vous pouvez en vivre un à l'instant même. Maintenant, tu peux être rafraîchi spirituellement et recevoir une pluie abondante de bénédictions descendant du ciel sur toi, sur ton église, sur ta famille. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, nous lisons. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voulez-vous le réveil dans votre vie? Accrochez-vous à ce texte. Découvrez à nouveau l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est lui qui est là en train d'opérer ce miracle, cette transformation radicale en vous. C'est lui qui affermit, c'est lui qui perfectionne, c'est lui qui accomplit la force dont vous avez besoin. Il vous rendra inébranlable. Faites-lui confiance. C'est un retour à la source même de toute bénédiction, un retour vers la personne de Jésus-Christ, celui qui nous a promis une vie abondante et une vie éternelle. Chers amis, prochaine émission, 2 Rois, chapitre 23, verset 28, à chapitre 25.
Merci, Régent. On a vu aujourd'hui à quel point une personne peut sombrer dans le péché quand elle se détourne de Dieu. C'est vraiment triste. Je connais un homme qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur il y a plusieurs années. Un jour, il a eu des problèmes avec les dirigeants de son Église, et il n'avait pas entièrement tort dans les points qu'ils soulevaient au cours de leurs arguments. Mais à cause de l'orgueil, il a décidé de quitter l'Église. Et graduellement, il a cessé de lire la parole de Dieu. et il a été laissé à lui-même et est retombé dans le péché qu'il commettait avant de connaître le Seigneur. Il s'est mis à prendre encore plus d'alcool qu'il n'en prenait auparavant. Il s'est endurci de plus en plus dans le mal. Et suite à tout ça, il est malade maintenant, et les médecins n'arrivent pas à lui donner un bon diagnostic. Donc, il n'y a aucun remède possible pour le guérir. C'est vraiment bien triste de le voir aujourd'hui, après avoir pourtant eu un si beau départ. Mais on a vu aujourd'hui qu'une personne qui se repent peut vivre un grand réveil dans sa vie. C'est pourquoi je prie afin que ce frère soit convaincu par l'Esprit de Dieu que c'est le péché qui l'a amené dans l'état où il est. Je demande à Dieu qu'il l'amène à la repentance et au réveil. Et je crois sincèrement que Dieu va le faire. Après tout, la parole de Dieu nous dit que quand on demande une chose à Dieu, si on croit qu'on l'a reçue, on la verra s'accomplir. Mon ami, crois-tu que Dieu répond aux prières? Es-tu de ceux qui ont connu la grâce de Dieu et qui s'en sont détournés? Ou es-tu de ceux qui n'ont pas encore reçu le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle? Eh bien, mets ta confiance en Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire et pour que tu sois heureux, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vis. Et pour être réellement heureux, on a besoin d'espérance. On a besoin d'être certain qu'après la vie sur cette terre, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Et ce quelque chose, c'est la vie éternelle. Imagine être éternellement dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie. Mais un pécheur ne peut pas entrer au ciel, à moins qu'il ne se repente, qu'il reçoive le pardon de ses péchés. Mon ami, tu peux recevoir ce don gratuit maintenant. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est dans le verset suivant, où il est cité que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus a payé ta dette en entier en mourant sur la croix. Tu n'as pas besoin d'essayer de gagner ton ciel, c'est tout payé. Repens-toi, détourne-toi du péché et tourne tes regards vers Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est ce que la Bible enseigne. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Invite-le dans ton cœur, dans ta vie. Il veut entrer. Il attend avec amour que tu l'invites. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Laisse-le entrer. » Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.